Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin au micro de France Culture, je reçois Benoît de Sagazan, rédacteur en chef du Monde de la Bible, une revue trimestrielle d'histoire, d'art et d'archéologie. Un titre du groupe Bayard, qui a entrepris récemment sa propre révolution éditoriale en devenant un magazine livre. Alors magazine livre avec un tiré au milieu, c'est qui s'appelle dans le jargon un MOOC. Alors vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est, ce qui fait un objet de plus de 150 pages qui est remarquablement bien illustré et qui est disponible en kiosque, en librairie et je crois aussi sur abonnement. Et je crois même qu'il y a une version électronique du... Alors, de la revue.
Cette revue, bonjour Sébastien, cette bonjour. Revue est une, ce que nous appelons aussi un bimédia dans notre jargon, c'est-à-dire que nous publions quatre fois par an cette belle revue que vous avez donc entre les mains et qui est disponible donc en kiosque et en librairie. Et puis nous publions donc dans les mois intercalaires des livres numériques en français et en anglais qui sont donc disponibles à la fois sur notre site internet lemondedelabible.com mais aussi sur toutes les grandes plateformes. Google Play, Apple Store et puis enfin, Amazon, enfin toutes celles que l'on a à notre disposition. C'est un sacré pari pour une petite équipe, c'est le pari de l'avenir. On y croit fermement et les premiers résultats sont, je l'avoue, encore assez encourageants.
Parce que le titre existe depuis longtemps.
Alors c'est une vieille revue qui est d'origine universitaire. Elle était connue d'abord à partir des années 50, fondée dans les années 50 par des chercheurs. Elle s'appelait Bible et Terre Sainte. Et en 78, le groupe Bayard l'a repris et a fondé, à partir de Bible et Terre Sainte, cette revue qui s'appelle Le Monde de la Bible, qui petit à petit s'est ouverte non seulement au champ de l'archéologie, à l'époque on appelait ça encore archéologie biblique, maintenant c'est l'archéologie donc des religieuses dans les pays du Proche-Orient, et puis à l'exégèse bien sûr, à l'histoire des textes bibliques, il y a eu beaucoup de choses qui sont produites dans ce domaine-là, notamment depuis la découverte des manuscrits de Qumran, qui a profondément renouvelé le genre. Et puis, petit à petit aussi à l'art et à l'histoire de l'art. Il faut savoir que 80% de nos collections, de nos musées, sont des œuvres religieuses et la plupart à thème biblique.
Et donc, vous couvrez un vaste champ, finalement.
Alors, c'est un vaste champ. C'était une revue d'origine universitaire, donc un peu savante. Hein. C'est-à-dire que les auteurs du Monde de la Bible sont souvent des chercheurs, des enseignants, des professeurs d'université. Et cette revue donc, a besoin de se renouveler, de trouver un nouveau public, d'être sans doute un peu moins élitiste. Et donc pour cela, on a décidé de s'appuyer un petit peu sur deux types d'institutions qui sont à la fois les universités, c'est-à-dire que la revue était devenue trop chère pour des étudiants, et puis trop éloignée et trop austère pour des gens qui aiment la culture, notamment le monde des musées, qui est un milieu qui nous intéresse beaucoup parce que les expositions ne désemplissent pas. Et le prix acquis des visiteurs qui découvrent une œuvre religieuse, finalement, baisse. Et donc, de moins en moins de personnes, et notamment chez les jeunes, vont au catéchisme, ne serait-ce que pour apprendre les bases d'une iconographie religieuse. Donc, on pensait qu'on avait peut-être un rôle à jouer d'intermédiaire, de passeur, de culture dans ce domaine-là. Donc, la revue, qui est une revue qu'on peut presque dire une revue d'art, enfin, c'est comme ça que nous la concevons. Donc elle est disponible bien sûr dans les musées, dans les librairies de musées, mais aussi en librairie générale. Et puis les livres numériques que nous produisons à un coût plus réduit, ça va de 3 à 6 euros ou 7 euros, et que là nous destinons davantage au monde des étudiants qui peuvent télécharger, puis ils sont tous nés avec un clavier au bout des doigts, ils savent télécharger ça par cœur. Donc à un prix réduit, ils peuvent se procurer des dossiers consistants sur les sujets qui peuvent les intéresser.
Alors ce que je voulais dire pour nos auditeurs, c'est qu'on a parlé de revues universitaires à l'origine, mais il ne s'agit plus de ça, en ce sens que l'accès est facile, est agréable, mais le fond demeure. C'est-à-dire que vous avez réussi à présenter des questions très importantes de manière, je dois dire, assez agréable.
Alors on choisit toujours un angle grand public. C'est vrai que les auteurs restent des universitaires, mais là, on essaye de travailler avec eux pour rendre plus facilement accessible leur savoir. Donc, c'est vraiment un outil de vulgarisation au sens propre du terme. Et donc, et l'image que nous produisons en abondance dans cette revue veut faciliter ce rapport à la lecture.
Alors, nous sommes déjà à plus d'un an après le changement de formule. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir ?
Moi, je suis très confiant sur l'avenir de cette revue parce qu'elle a reçu un formidable accueil. On le voit bien, les partenariats que nous avons régulièrement avec les musées nous le montrent. L'accueil du public nous le montre, les ventes nous le montrent aussi. Et elle ne demande qu'à progresser. Non, je suis très confiant sur l'avenir de cette revue.
Ben merci pour cette belle lueur d'optimisme. Alors maintenant, rentrons dans le vif de notre question. Ce que l'on découvre, pour ceux qui ne connaissent pas encore le monde de la Bible, c'est que la thématique des chrétiens d'Orient est très très souvent présente. Comment vous voyez ce pan-là, disons, de la connaissance ?
D'abord, il y a un lien direct avec ce que nous traitons. Le fond de la revue, c'est l'étude des textes bibliques. Donc, c'est un héritage plus que de 3-4 000 ans. C'est un héritage textuel, mais c'est aussi un héritage archéologique. Mais avec ces deux héritages-là, nous avons voulu savoir un peu comment vivaient ceux qui sont les héritiers directs de cette tradition dans les pays qui nous concernent. Donc, nous intéressons fortement à l'actualité donc, de toute cette zone du Proche-Orient qui va donc, grosso modo, de la Turquie à l'Éthiopie et bien sûr jusqu'à l'Iran. Quoi. Grosso modo, c'est tout ce bassin hein, du Proche et Moyen-Orient qui nous intéresse. Alors, ils intéressent à la fois pour ce qu'on y découvre, mais aussi parce que pour ce que vivent ces communautés.
Et quand on lit les pages archéologiques, donc d'actualité archéologique, on se rend compte surtout qu'il y a beaucoup de découvertes. C'est qu'on est dans des périodes très très importantes pour la fouille archéologique.
Alors, il y a à la fois beaucoup de découvertes et puis beaucoup de massacres aussi, parce que l'actualité, malheureusement, n'est pas toujours facile et gaie à ce moment-là. Mais il y a eu beaucoup de découvertes. Moi, parmi celles qui m'ont fasciné dans les dernières que nous avons publiées, il y a eu tout ce rapport qui a été publié dans mon avis sur la première église authentifiée comme église en Israël, à Megiddo. C'est donc sur la forteresse de Megiddo, on a découvert une chapelle qui était à l'intérieur du camp romain. Donc c'est les légionnaires qui avaient créé eux-mêmes leur propre chapelle dans l'enceinte. Et là, tout d'un coup, on se dit mais... Finalement, ces légionnaires, ces légions ont aussi été aussi des propagateurs de la foi chrétienne, de l'évangile. Et ça, on pense toujours aux apôtres, à ceux qui vont prêcher dans les agoras et dans les communautés. Mais il y a eu aussi tout ce mouvement militaire romain qui, ben voilà, la première église authentifiée dédiée à notre Seigneur Jésus-Christ, elle est dans une enceinte militaire. C'est la plus ancienne que nous connaissions aujourd'hui. Il y a eu aussi, récemment, on a fait tout un travail aussi sur l'art byzantin restauré au Liban, dans la vallée ardennoise. Le nom arabe, je ne le prononcerai pas parce que j'aurais trop peur de l'écorcher. Vous le prononcerez sûrement mieux que moi. Hein,
c'est dans l'édition, le numéro 210, donc le numéro
Alors
de
ça, c'est dans le numéro qui est paru précédemment, celui-là.
Voilà, c'est les maîtres de l'église de Kaftoun.
Le Kaftoun, voilà, au Liban.
Dites-nous
donc,
un peu
plus. Dans cette vallée des Noix, oui, c'est une église qui a été restaurée à la fois donc, par des missions polonaises, mais aussi, j'ai appris aussi par le Petit Palais aussi, qui a restauré la fresque. Et donc, c'est en restaurant ces églises-là, étaient cachées derrière des pierres, des fresques de somptueuses. Et on s'est aperçu là qu'il y avait eu un maître, donc au Liban, venant sans doute de Constantinople, et qui avait déployé là son art de façon assez exceptionnelle, et qui avait sans doute essaimé dans beaucoup d'autres églises de la vallée. Donc là, il y a la révélation de fresques tout à fait splendides, qui montrent aussi à la fois la circulation des idées, des larmes, des programmes iconographiques dans cet Orient, et aussi la vitalité et des chrétiens de ces époques-là.
Et ce qui montre aussi qu'il y a toujours des découvertes à faire.
Toujours à faire, oui. Je serais moins optimiste maintenant, parce que quand on voit l'état de la Syrie aujourd'hui, tout ce qui a été détruit, et puis l'impossibilité de fouiller maintenant en Syrie, nous inquiète beaucoup. En Égypte, il y a encore des découvertes à faire, en Israël et en Palestine aussi, plus. En Jordanie aussi, on en fait encore des intéressantes. L'Irak nous inquiète aussi, même si l'Institut français d'archéologie a pu se rétablir à Erbil. Dans quelles conditions peuvent-ils travailler maintenant? Je ne sais pas. Mais on ne désespère pas.
Ce qui semble nouveau dans la problématique actuelle, on a déjà abordé la question dans plusieurs émissions, c'est que maintenant le patrimoine devient aussi une cible en tant que telle.
Ben oui, parce que quand on tue une identité, on tue le patrimoine de l'autre. Mais ça, on l'a vu dans tous les conflits, hein, même la guerre de 14. Et quand les Allemands ont bombardé la cathédrale de Reims, ils voulaient toucher un symbole national. Et je pense que dans les guerres actuelles, c'était la même chose. Quand on veut détruire un peuple, on détruit son identité, on détruit sa culture.
Alors, comment vous êtes journaliste aussi, comment vous voyez vous abordez cette question, comment vous le traitez dans vos pages? Vous essayez de faire un compte-rendu systématique des destructions?
On ne fait pas un compte-rendu systématique des destructions, parce que là, on serait dans un pessimiste et on détruit le moral. On cherche plutôt les signes d'espoir, en fait. Hein. Comment une communauté arrive à se maintenir et à se relever? Quand c'est possible. Je dois vous avouer que pour ce qui concerne notamment la Syrie, l'Irak, notre inquiétude est extrême. Quand on entend des retours de personnes qui vont sur le terrain, qui nous disent que, alors que leur parole était plutôt pacifique, et qu'il faudrait plutôt songer aujourd'hui à armer peut-être les communautés chrétiennes d'Irak, ça fait froid dans le dos, qu'on se dit vraiment que la situation est plus que difficile, quoi, et d'une cruauté incroyable. Et pourtant, il nous paraît tellement important que ces communautés, et toutes ces minorités, d'ailleurs, mais ces communautés chrétiennes en particulier d'Orient, puissent rester sur place, et pas uniquement pour qu'elles soient un témoignage d'un pluralisme, c'est que si elles disparaissent, tout le reste disparaît, quoi. Et nous, occidentaux, nous avons un devoir vis-à-vis de à la fois de ces communautés, mais aussi de cette région-là, parce que notre culture, elle vient à la fois de la Grèce et de l'Orient. Je veux dire, l'écriture a été inventée dans ces pays-là. La Bible est-elle aussi un métissage entre Babylone et l'Égypte? Le christianisme a été fondé aussi bien à Antioche qu'à Alexandrie et à Jérusalem. Donc, on ne peut pas se dédouaner et penser que ce qui se passe là-bas ne nous concerne pas.
On en revient au titre de cette revue, Le Monde de la Bible.
Oui, c'est le monde, c'est l'univers de la Bible, le monde de la Bible, oui.
Est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre au pluriel, les mondes de la Bible?
Sans doute. En même temps, est-ce que ce n'est pas cette pluralité de ce monde-là qui en fait l'unité quelque part? C'est peut-être le meilleur témoignage qu'ils ont su donner dans l'histoire. Israël, par exemple, a été les Hébreux... Les Israélites et les Juifs ont été très souvent occupés par des puissances étrangères, mais ils ont survécu à cela. Quoi. D'ailleurs, c'est même étonnant que dans cette histoire, la Bible ait survécu à plus de 20 siècles, alors que les deux grandes puissances qui l'encadraient, Babylone et l'Égypte des pharaons, ont sombré et ont disparu, et ont même été oubliées de l'humanité pendant presque 19 siècles, jusqu'à l'aventure archéologique des 19e et 20e siècles.
On pourrait dire la même chose peut-être aussi pour ces chrétientés araméennes.
Exactement.
De la plaine de Ninive.
Mais bien sûr. Donc, il ne s'agit pas de faire un inventaire culturel, il ne s'agit pas de muséifier non plus ces régions-là, mais que ces communautés existent toujours et qu'elles puissent s'entendre avec d'autres et qu'on puisse avoir sur Terre des lieux où les communautés... des mosaïques, parce que c'est vraiment une vraie mosaïque, puissent former un tout et une unité ensemble, c'est un témoignage pour toute l'humanité. C'est une responsabilité aussi pour toute l'humanité. Et quand ça dérape, quand certains veulent que cela ne se fasse pas, on doit les en empêcher.
Je vous rappelle que vous êtes sur France Culture. Je suis en compagnie ce matin de Benoît de Sagazan, le rédacteur en chef de cette très très belle revue trimestrielle, Le Monde de la Bible, Histoire, Art et Archéologie. Et nous évoquons le sens de la responsabilité peut-être, de comment on peut parler aussi du patrimoine et faire vivre toutes ces cultures. Alors, on mentionnait le numéro de l'automne qui est l'Égypte et la Bible, des Hébreux aux Coptes. Alors là, on voit l'intervention des Coptes, donc on arrive jusqu'à notre univers des chrétiens d'Orient. Et je crois qu'il y a le numéro actuel, c'est j'en suis sûr, vous êtes parti sur l'idée du le premier Noël.
Oui.
Alors dites-nous un peu plus sur ça.
Alors le premier Noël, on joue sur une ambiguïté, mais qu'on assume complètement, mais qui nous intéresse, c'est à la fois le premier Noël, c'est que sait-on véritablement de la nativité de Jésus ? Donc nous posons les questions à une historienne, Marie-Françoise Basselès, sur où et quand. Et donc elle avait la charge de répondre à cette question difficile. Et ensuite, nous sommes surtout intéressés aussi à la première fête de Noël. Comment la première fête de Noël est-elle apparue ? Dans quelles circonstances ? Car il faut savoir que pendant quasiment 3-4 siècles, les chrétiens ont fêté Pâques, la résurrection. Ils s'intéressaient peu à la chronologie, ils s'intéressaient peu aux circonstances de la naissance de Jésus. Et donc, comment finalement cette idée de devoir se souvenir aussi de la naissance de Jésus et de la fêter, aujourd'hui c'est la fête la plus populaire en Occident, bien avant Pâques même. Et alors, comment tout ça s'est construit dans l'histoire, sur quelle théologie, à quelle nécessité cela a répondu Donc c'est toute cette question-là du premier Noël que nous avons voulu traiter. Et on a traité donc plusieurs autres sujets en annexe, qui sont mais finalement, de quand datent les premiers pèlerinages à Bethléem ? Quelle est l'archéologie des lieux de Bethléem ? C'est qu'il y a une polémique aujourd'hui suscitée par quelques archéologues en Israël sur l'existence d'un second Bethléem près de Nazareth, parce qu'on y a trouvé une basilique byzantine dans ce petit village à côté de Nazareth. Donc certains peuvent supposer qu'il y a eu un lieu de pèlerinage aussi là. Bon, nous répondons, nous, à cette question. Puis on s'est interrogé sur la première crèche aussi, parce que c'est l'époque qui le veut. À quelle date remonte-t-elle et à quel besoin répond-elle ? Quelle était aussi l'évolution de ces crèches qui, petit à petit, sont devenues aussi des crèches domestiques ? Donc elles ont quitté les églises, les parvis, pour entrer dans les maisons. Et pourquoi ? Et voilà.
Alors je me souviens aussi, en restant dans cette région du monde, en Terre Sainte, je me souviens aussi d'un très très bel entretien que vous aviez publié il y a quelques mois avec le père Jean-Baptiste
Humbert, voilà. Un archéologue connu, oui.
Alors je rêve de l'inviter un jour dans cette émission, si un jour c'est pas le conduise jusqu'à Paris. Mais dites-nous un petit peu quel est ce personnage et la nature de ses recherches.
C'est vraiment un archéologue atypique. C'est donc un dominicain conduit presque par hasard. Enfin, il avait une vocation d'archéologue enfant, mais il pensait vraiment pas pouvoir. Il pensait que ce métier-là ou cette vocation-là était inaccessible. Et puis jusqu'au jour où les dominicains se sont souvenus qu'ils avaient une école biblique à Jérusalem et ils l'ont demandé de faire un an de stage, grosso modo là-bas. Donc c'était dans les années, au début des années 70 et il y est resté là depuis. On lui doit beaucoup de recherches. Il a fouillé le sol de la Jordanie. Donc c'est là qu'il a découvert notamment qu'il y avait beaucoup d'églises en Jordanie qui étaient sous le sol jordanien, que les églises avaient été maintenues jusqu'au 12e, 13e, voire 14e siècle. Les mosquées sont beaucoup plus tardives. Donc ça veut dire aussi que pendant toute une période, musulmans et chrétiens ont prié dans les mêmes lieux. Enfin, c'est là une des conclusions qu'il en tire. Il a fouillé aussi, on lui doit beaucoup aussi la résurrection. Alors maintenant, dans quel état, je ne sais pas, mais du patrimoine de Gaza, où il a mis à jour le monastère de Saint-Hilarion, qui est un très grand monastère de la chrétienté, donc des premiers siècles, du 3e ou 4e siècle. Et puis on lui doit aussi, bien sûr, il est l'héritier donc, du père de Vaux, qui est donc le fouilleur de Qumran, et donc du site de Qumran. Et donc là aussi, il a beaucoup de une grande publication l'attend, parce qu'il doit maintenant restituer tout ce matériau engagé sur le site de Qumran, qui remet en cause pas mal d'idées reçues qu'on a aujourd'hui, notamment sur les Esséniens.
Alors, rappelons un petit peu ce qu'est Qumran tout de même.
Alors, Qumran, ce sont des grottes qui se situent au-dessus de la mer Morte. Donc, c'est dans ces grottes que des Bédouins avaient trouvé donc, des manuscrits. Je crois qu'on a trouvé pas loin de. Dans des jars de 900 rouleaux, je crois, à peu près. Et donc, qui nous retrace des écrits bibliques ou des règles de la communauté qui les avait conservés. Alors, on ne sait pas toujours pourquoi ces manuscrits étaient dans ces grottes. Sans doute, on les avait mises pour les protéger. À quel moment ? Sans doute après la chute du temple. Mais dans quelles circonstances exactes, on ne sait pas. On y a trouvé beaucoup de règles de vie des Esséniens. Donc, on a très vite attribué ce site aux Esséniens. Et il me semble que ce site n'ait pas été occupé que par des Esséniens. C'est ce que Jean-Baptiste Humbert met en lumière actuellement. Mais c'est des aventures passionnantes encore à découvrir. Et je pense, on attend tous ces publications avec beaucoup d'intérêt.
Mais surtout, on peut dire qu'il faut les, on peut les découvrir dans le monde de la Bible.
C'est une de nos vocations.
C'est une vocation, véritablement.
Ah oui, de tenir au courant des révélations. Alors, on procède différemment souvent de beaucoup d'autres revues. C'est qu'on n'annonce pas une découverte. On attend qu'elle soit certifiée, reconnue et publiée pour en parler savamment. Donc, ce que nous publions bénéficie du consensus de la communauté scientifique.
Oui, pas de sensationnel et pas d'annonce.
Pas de sensationnel si on n'en est pas sûr.
Dernière petite question avant de nous séparer, malheureusement, parce que le temps passe trop vite. Les liens entre l'archéologie et le politique, est-ce que vous êtes... Comment vous gérez ces liens parfois un petit peu proches?
Je viens de répondre en fait à votre question indirectement. C'est que c'est une des raisons pour lesquelles nous attendons que le consensus se fasse dans la communauté scientifique. Parce qu'il est vrai que l'archéologie a pris une dimension politique évidente aujourd'hui. Qu'on annonce pour montrer qu'on était souvent les premiers occupants du sol ou que nous sommes les véritables maîtres du lieu, que nous avons une légitimité à être là ou pas là. Voilà. Donc il y a des concurrences qui peuvent se créer entre communautés, entre États parfois, où on veut rediscuter les frontières parce qu'on a découvert qu'il y avait quelque chose de l'autre côté ou amoindrir l'influence de l'autre parce que voilà. Donc c'est pour ça que nous nous intéressons surtout à l'histoire et à la vérité, si on peut le dire, une certaine vérité scientifique du lieu. Et écarter de ce fait-là la dimension politique immédiate.
Qui peut polluer finalement l'interprétation.
Qui pollue intentionnellement l'interprétation du lieu, bien sûr. Il y a beaucoup de découvertes qui ont été démenties depuis.
C'est-à-dire des découvertes qui ont été annoncées et qui ont été...
On a découvert le mur de David, on ne l'a toujours pas trouvé, ou on a découvert telle chose et ça n'existe pas.
Benoît de Sagazan, je vous remercie infiniment d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle le titre de cette revue du groupe Bayard, Le monde de la Bible, histoire, art et archéologie. Les deux derniers titres sont L'Égypte et la Bible des Hébreux aux Coptes et surtout le titre actuel, ce numéro d'hiver, Le premier Noël, donc avec effectivement des pages très importantes pour redécouvrir cet événement finalement important.
Il y a un partenariat sur ce numéro avec le Louvre, sur la nativité vue par le Louvre notamment.
Très très bien. 150 pages donc à notre disposition, beaucoup d'illustrations, une revue qui est attractive et vraiment j'engage nos auditeurs à se réabonner
à le
voir en librairie ou en kiosque. Nous retrouvons maintenant le service protestant avec Michel Schaeffer. Je remercie Dany Journeau pour la réalisation de cette émission, Philippe Palares au son, et émission que vous pouvez retrouver en podcast ou balado-diffusion sur le site internet de France Culture.